Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez à peu près tout présenté à la télévision, sauf le journal télévisé, peut-être à cause de votre amour du passé, qui ne vous empêche surtout pas d'être aujourd'hui encore dans la note. Bonjour Jérôme Anthony.
Bonjour Jacques Pessis, je suis ravi d'être à vos côtés.
Eh bien réciproquement, parce qu'on vous connaît à travers la télévision, et là vous sortez un album, Ma plus belle chanson.
Oui.
On va en parler tout à l'heure, et on va revenir, c'est le principe des clés d'une vie, sur votre parcours assez atypique à la télévision, et assez varié à travers des dates.
Oui.
Et la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais indirectement, c'est le 13 janvier 1983. C'est la première émission d'une station qui est à Vendeuvre-lès-Nancy.
Oui.
Qui s'appelle Rockin'Chair.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la radio sur laquelle j'ai débuté. Alors, elle existait avant que j'y arrive. Mais effectivement, quand j'avais 14 ans, pas mal de disques chez moi, un peu de tchatch et un peu de temps à consacrer à ça. Et à cette époque, quand on avait tous ces éléments, on pouvait effectivement commencer à faire de la radio.
Oui. Il y avait 55 animateurs sur cette chaîne.
Ah bon?
Oui, tous pas payés, à mon avis.
On faisait chacun une minute d'antenne.
Voilà.
C'était le principe.
Et les fonds étaient venus de 10 entreprises locales qui avaient financé cette radio.
D'accord.
Vendeuvre-lès-Nancy.
Et il y a non mais pour la petite info, oui. En fait, je suis entré dans cette radio parce que c'était le producteur de Charlie Couture qui est nancéen,
oui.
Producteur de Charlie Couture qui s'appelle Christian Lemasson, qui avait créé cette radio avec quelques amis et sans doute vous le disiez des partenaires. Et c'est comme ça que je suis entré dans cette radio. C'est lui qui m'a proposé de venir.
Et vous êtes arrivé avec une émission qui s'appelait Bleu Citron.
Oui, que je co-animais avec Sophie Loubière, une personnalité connue de la littérature et de la télévision. Et puis Anne-Carine Lang, la fille de Georges Lang. Et Georges Lang, vraiment le pape de la radio. Nous avait écrit une émission qui s'appelait Starting Rock, qu'on a animé tous les mercredis après-midi.
Alors, Bleu Citron, en plus, c'était l'époque d'un autre film, Trocadéro Bleu Citron,
mais oui.
De Michael Schoch.
Ah, mais j'adore ce film, c'est dingue que vous me parliez de ça, personne n'en parle jamais. Ah, de ce film.
Ce film est totalement oublié.
Ah, mais oui, avec Lionel Mélé, c'était à la grande époque du skateboard, et il faisait du skateboard du côté de Trocadéro, ce qui explique le titre.
Voilà, et c'était le premier film sur le skateboard.
Au Trocadéro. Avec Annie Dupéré aussi.
Voilà. Et vous aviez un slogan qui était C'est canon, tes enceintes éclatent, waouh, oui, ça claque.
Oui, bah, je faisais beaucoup de jingles, et notamment c'était l'époque des prémices du rap, et on faisait ça en rap. Voilà.
Voilà. Et le waouh, il y a une origine, vous allez entendre cette voix.
Oh non, il y a comme dans toute chose des choses agréables et des choses un petit peu moins agréables.
François,
sont contrastées.
Car le waouh, c'est lui dans Podium qui a inventé cette expression qui est devenue aujourd'hui à la mode.
Mais tout à fait, effectivement.
Et vous avez été marqué par Claude François, Jérôme Anthony.
Oui, bah, c'est-à-dire que moi je suis né en 68 et à cette époque, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'aimer Claude François.
Oui.
C'était le seul chanteur un peu pétillant, un peu sympathique, qui faisait des chansons joyeuses. C'était un peu notre M. Pokora d'aujourd'hui.
Et vous avez fait une émission d'ailleurs où on recherchait le nouveau Claude François, ce
oui.
qui semble impossible.
C'est vrai, c'est totalement impossible. Et pourtant, il y avait son fils dans le jury,
oui.
et tout. On ne savait pas très bien qui on allait chercher, on ne l'a pas trouvé. Voilà.
Et l'un des premiers imitateurs, je ne sais pas si vous le savez, Jérôme Anthony, de Claude François, c'était un certain Jean-Louis Mougeot. Jean-Louis Mougeot, en 1974, il fait son premier disque, et ce sont les élections présidentielles, Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand, et il devient François Valéry.
Ah, c'est François Valéry.
Exactement, Jean-Louis Mougeot, c'est son vrai nom.
D'accord.
Alors vous êtes né à Nancy,
oui.
et Jérôme Anthony, c'est pas votre vrai nom non plus.
Non.
Parce que votre vrai nom, il est imprononçable.
C'est Finkelstein, mon vrai nom de famille. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur une radio jeune, c'était pas facile de chanter Finkelstein dans les jingles. Donc j'ai pris mon deuxième prénom, qui est Anthony, en fait.
Oui, et en même temps, le nom d'une marque de vêtements familiale.
Non, c'est le nom de la boutique de mes parents.
Voilà.
Alors je me suis dit, voilà, comme je suis très superstitieux, je me suis dit, ça leur a porté chance, je vais prendre mon deuxième prénom, et j'en ai fait ce. Bon, c'est compliqué, hein, parce que tout le monde pense que je suis le fils de Richard Anthony.
Mais oui, justement.
J'ai rien à voir avec Richard Anthony. Aujourd'hui, je préférerais m'appeler Finkelstein. Hein. Je l'assume totalement. Hein. Mais à cette époque-là, voilà, on voyait les choses un peu autrement.
Et à l'époque, vous rêviez, Jérôme Anthony, de devenir chanteur et comédien.
Oui, je voulais être. Alors, ma mère a fait le conservatoire de Mireille. Enfin, elle avait envie de faire ça.
Elle a fait le conservatoire de Mireille. Sur les bancs.
Elle a été repérée par Roger Lanzac à l'époque. Vous voyez toute cette période.
Donc, les dimanches.
Voilà, j'ai été bercé un petit peu par tout ça. Et quand j'ai dit à ma mère que je voulais être chanteur, elle m'a dit très bien. Conservatoire, donc j'ai appris le piano, mais je voudrais être comédien aussi. Très bien, conservatoire d'art dramatique. Et je me suis retrouvé comme ça dans ces deux activités. Mais je suis un très mauvais élève, j'y suis pas resté très longtemps, mais j'ai quand même vu comment ça s'est passé.
Très mauvais élève, je crois que vos études se sont arrêtées en troisième.
Bon écoutez, parlons d'autre chose, parce que mes enfants ne sont pas au courant, je l'aurais pas dit.
Alors vous avez quand même appris votre métier sur le terrain, vous avez appris à faire des messages publicitaires, des jingles, chanter.
Beaucoup,
Mais ça s'apprend. Aujourd'hui, c'est impensable d'apprendre ça sur le terrain, Jérôme Anthony.
On avait la chance de pouvoir accéder à du matériel et à un savoir-faire. Et en fait, vous savez, aujourd'hui, toutes les chansons, enfin la majeure partie des chansons pour pour les jeunes qu'on entend, elles sont faites sous forme de ce qu'on appelle du top line. Ça veut dire qu'on fait d'abord la base musicale et ensuite on invente une mélodie dessus.
Oui,
vous voyez
mélodie,
ce que
moi,
ça s'appelle du top line. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on faisait déjà à l'époque. Ça n'avait pas de nom, mais on prenait des bases musicales et on inventait des jingles, des mélodies, des choses comme ça. Et j'en ai fait pendant des années.
Oui, et il y a une discothèque de Nancy, je crois, qui vous doit beaucoup, qui est le Solitaire's Club.
Ah, Solitaire's Club. Vous savez, c'était la discothèque où on n'avait pas le droit de rentrer si on n'avait pas 30 ans.
Oui, les à 30 ans.
Oui, ouais, c'était la discothèque des moins de 30 ans ou des 25 ans, je ne sais plus. Un basket interdite, jean interdit. C'était vraiment la discothèque, pardon, mais des anciens à l'époque. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, j'ai un petit peu bousculé tout ça. On a autorisé les baskets, on a laissé rentrer les jeans et je leur ai fait pas mal de jingles et c'est devenu. C'était vraiment. Je vais vous dire un truc, je fais une parenthèse. C'était la discothèque qui était la plus rentable de France. Donc tous les patrons de discothèque venaient voir comment ça se passait. Et en fait, il n'y avait rien d'autre qu'une très très bonne ambiance.
Voilà. Et le slogan, c'était « Où vas-tu ce soir ? On va faire la nouba au Solitaire's Club ».
Alors le mot nouba, on ne l'emploie plus aujourd'hui.
Voilà.
Mais on n'en pense pas
et
moins.
Et des discothèques rentables, à l'époque, c'était les années 80, ouais. Elles fermaient les unes après les autres. François Patrice, Élysée Matignon, qui était au bord de la faillite.
Ouais.
Vous aviez de la chance à Nancy d'avoir une discothèque qui marchait. Ce n'était pas évident.
On avait plusieurs discothèques qui marchaient parce que je pense qu'en province, on aime beaucoup faire la fête, donc on en profite. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça n'existe presque plus les discothèques.
Non, il n'y a plus l'ambiance qu'il y avait où on retrouvait les stars tous les soirs.
Non, maintenant c'est plutôt des bars, voilà, des bars d'ambiance.
Voilà. Et ça a été la radio et puis la télévision est arrivée tout naturellement. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 mars 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Anthony.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jérôme Anthony. On parlera tout à l'heure de votre album qui est la concrétisation d'un rêve. Et là, on parle d'une autre date qui est le 22 mars 1997. C'est la première d'une émission de télévision dont voici le générique. Zapping Zone sur Disney Channel.
C'est vrai.
Et ça, c'est une chaîne naissante, Disney Channel.
Oui.
Et vous êtes un des pionniers de Disney Channel en France,
oui.
Jérôme
Anthony. J'avais eu déjà la chance de faire un petit peu de télé avant. Et là, je viens de finir une série d'émissions pour Gérard Louvain et Guy Lux. Une émission qui s'appelait Cascao pour
Bien
TF1.
Sûr, oui.
Je finis cette série d'émissions et Gérard Louvain me dit j'ai un copain qui ouvre une chaîne de télé, un Disney en France, Disney Channel. Et là, je rencontre un patron extraordinaire, Patrice Blanc-Francard. Alors là aussi, un des pionniers de la pop et du rock, qui avait produit Les Enfants du Rock, etc. Il me dit on va faire une émission tous les jours en direct, un mélange de MTV et des Enfants du Rock pour les enfants. Et ben, je suis parti sur cette aventure pendant 7 ans.
Avec un plateau de tournage qui était à l'époque révolutionnaire et qui est banal aujourd'hui, puisque les outils de production étaient apparents à l'antenne.
Oui, on voyait tout. Les lumières, le réalisateur, la script. Ils étaient au milieu du plateau et les caméras tournaient tout autour. Et voilà.
C'est tout à fait nouveau à l'époque et c'est banal aujourd'hui.
Alors c'était nouveau et à la fois c'était inspiré de la manière dont on éclairait les plateaux des séries, des soap opéra comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Très blanc, un petit peu comme ici dans ce studio. Donc on pouvait se déplacer partout dans le studio, un petit peu comme dans ces séries, comme dans AB Productions, toutes ces choses-là.
Voilà. Et vous dialoguez par téléphone avec les enfants.
Oui.
Et le téléphone à la télévision, c'est assez nouveau. À 10h du matin, il y a des jeunes femmes qui font deviner un objet mystère par téléphone.
C'est ça. Ah bah, c'était un petit peu la radio à la télé en fait.
Voilà.
Hein. C'était les débuts de ça, en tout cas.
Voilà. Et ça a été un succès énorme grâce au coup de téléphone et au jeu, ces émissions.
C'était une émission assez simple, mais surtout très chaleureuse. On était très proche des familles, on était très proche des enfants. Et puis, c'est Disney, c'est quand même une marque qui fédère.
Alors, en plus, vous assurez la relève de Pierre Tchernia, qui avait été l'ami public numéro 1, le premier à faire du Disney en France en 1965.
Oui.
Et à l'époque, Disney ne voulait pas entendre parler de la France à la télévision.
Mm-hmm.
Et il a convoqué Pierre Tchernia, qu'il avait un jour rencontré. Et lui, c'est vous qui allez faire cette émission, et c'est comme ça que les premières émissions des dessins animés de Mickey, de Jiminy Cricket, ou les premiers Zorro, car Zorro était déjà diffusé, est passé à l'antenne en France grâce à Pierre Tchernia.
Moi, je me souviens de ces émissions de Pierre Tchernia, puis après, plus tard, c'est Foucault qui a pris le relais également sur TF1. Je me souviens tout à fait, parfaitement bien de cette période de Disney.
Et puis, donc, vos débuts à la télévision, au départ, c'est Musique Family, Jérôme Anthony.
Ah oui, alors là, on est en 93. Hein,
bien avant.
On revient un petit peu en arrière.
Oui, exact. Ouais. C'est les débuts à la télévision.
Voilà.
Et c'est sur RTL TV.
Oui, RTL Télé, c'est une chaîne qui était en Lorraine, leader, toutes chaînes confondues. C'est-à-dire, c'était la chaîne la plus populaire, c'est la première chaîne qui passait des clips, c'est la première chaîne la plus jeune que j'ai connue à cette époque. Et j'avais vraiment très envie de travailler sur cette chaîne. Et dès qu'on m'en a offert la possibilité, j'ai pas hésité.
C'était un jeu, je crois, entre des clips, avec des clips vidéo ?
Écoutez, je vais vous dire, j'ai appris mon métier là-bas. J'arrivais à 11h du matin, je faisais une émission qui s'appelait Les femmes et les enfants d'abord. Ensuite, à 17h, je faisais une émission qui s'appelait Musique familiale avec des clips vidéo qu'on chargeait nous-mêmes dans le lecteur à vue, ce qu'on appelle les VJ, c'est-à-dire les DJ, mais en vidéo. Je faisais cette émission. Ensuite, 2 heures plus tard, je faisais La météo. Et puis après, j'enregistrais des émissions pour le week-end. Pour moi, c'était le Hollywood de la télévision et j'ai appris là-bas à faire de la télé, en fait.
Oui, c'était en Lorraine, à ne pas confondre, malgré que ce soit RTL, avec la Villa Louvigny au Luxembourg.
C'était lié. Mais ils avaient effectivement la Villa Louvigny, toujours où il y avait la régie finale.
Oui.
Et puis il y avait une antenne à Metz où on faisait les émissions.
Et vous avez échappé à la Villa Louvigny.
Oui.
À côté de ça, une banque, c'est Disneyland. Hein.
Ah oui, la Villa Louvigny, c'est assez austère. Mais c'est quand même un endroit assez mystérieux, chargé d'histoire.
Alors justement, vous faites cette émission avec une cassette dans un magnétoscope. Oui. Et ça, la jeune génération aujourd'hui n'imagine pas, Jérôme Anthony, qu'il y a eu des magnétoscopes.
Oui, mais qu'il y a eu des cassettes, effectivement. L'histoire d'avoir des bandes magnétiques qu'on rembobinait parfois même avec un stylo bic. Non, ça semble complètement dingue. Et pourtant, c'est vrai, mais ça m'a permis aussi de faire les beaux jours du zapping de Canal+, parce que souvent, les bandes ne partaient pas. Et donc, bon, on se retrouvait un petit peu planté en direct à l'antenne, ce qui faisait des séquences assez mémorables.
Alors, l'ancêtre du magnétoscope, je me suis renseigné, c'est un auteur français, Constantin Sanlinck, qui a imaginé un système d'enregistrement magnétique en 1909.
D'accord.
Et c'était pas encore ce que ça
1909, pour l'audio, là.
Pour l'image.
L'image aussi.
Il a mis des images sur un fil d'acier magnétique et a déposé un brevet, mais il n'y a pas eu de prototype.
Ah bah c'est magnifique. Bah écoutez, nous on l'a eu quand même dans nos chaumières longtemps plus tard,
hein,
à partir de 78-77.
Hein. Et la télévision, ça a commencé comment, Jérôme Anthony ?
Alors en fait, moi je faisais de la radio, j'ai fait de la radio, et puis un jour je chante dans un bar à Saint-Tropez, et je ne sais pas que est présent le directeur des programmes, le programmateur de l'émission Sacré Soirée, qui me propose donc de participer à la séquence Jeunes Talents de Sacré Soirée. Ce qui fait que quelques mois plus tard, il m'avait dit, je ne sais pas si tu passeras, mais en tout cas on l'écoutera avec attention. Donc j'envoie une cassette magnétique. Et donc, je suis sélectionné, je passe dans l'émission, j'y reste jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que l'objectif, c'était, toutes les semaines, j'avais un autre candidat face à moi qu'il fallait que j'élimine, entre guillemets, et que je poursuive l'aventure. Donc, au terme de cette aventure de 18 émissions, alors à l'époque, Sacré Soirée, c'était 18 millions de téléspectateurs,
ouais,
hein,
ouais.
Ça fait de la notoriété. Je fais un CD avec Barbe Olivien. Et on propose très vite de faire de la télé sur RTL Télé. Et c'est comme ça que j'ai laissé un petit peu de côté l'histoire de la chanson pour me consacrer à ce que je pensais savoir mieux faire. C'est-à-dire de la télévision ou de la radio.
C'était un rêve aussi, la télévision, pour vous.
Ah, mais moi, voilà, pour moi, tout est lié. Hein. C'est-à-dire que je sais qu'en France, c'est compliqué d'avoir plusieurs casquettes, mais pour moi, tout ça est très lié.
Et la première télévision que vous avez fait en France, après Sacré Soirée, c'était La Chance aux Chansons, où vous avez interprété
chanson de Barbe Olivien, Quelque part, quelqu'un, oui.
Alors, c'est quand même un record parce que vous avez travaillé, et j'ai fait le calcul, Jérôme Anthony, pour RTL9, pour TF1, pour France 2, pour M6, pour W9.
Non, mais c'est toujours embêtant quand on dit ça parce qu'on a l'impression qu'on se fait virer de partout. Mais non,
mais justement.
Quand je faisais France 2, les émissions de Sophie d'avant le matin, je faisais une petite chronique en plus le samedi, en plus de Disney Channel. Je combinais un petit peu les choses comme ça, mais par exemple M6, ça va faire 17 ans que j'y suis, donc je suis quand même très très stable.
Oui, et vous êtes passé d'un genre à l'autre avec l'improvisation totale, car vous avez le sens de l'improvisation, ce qui est la qualité d'un animateur télé, Jérôme Anthony.
Écoutez, c'est gentil, je ne peux pas me permettre de le dire, mais merci de me le dire en tout cas.
Non, mais c'est vrai, l'improvisation, oui. c'est inné chez vous.
Écoutez, moi j'ai toujours considéré, moi mes pères, c'est Drucker, c'est Foucault, voilà, c'est des gens que j'estime beaucoup et qui sont mes exemples. J'ai toujours estimé qu'un animateur doit pouvoir tout faire, c'est-à-dire un animateur entre guillemets est 4-4. En dehors du journalisme et en dehors de certaines autres activités, on doit pouvoir savoir tout faire à peu près.
Et dans les émissions que vous avez présentées, il y a Génération Hit.
Oui, Génération Hit, sur M6, hein, il me semble.
Hein, ouais. Et il y a les W9 d'or.
Oui, écoutez, sur M6, on a vraiment lancé beaucoup, beaucoup de marques. Il y en a qui ont duré, d'autres un peu moins. Mais en l'occurrence, on a fait des émissions pendant très longtemps, notamment le matin.
Voilà, et les W9 d'or, c'était la première cérémonie musicale dont les gagnants étaient désignés sur les chiffres de vente, je crois.
Exactement, sur les chiffres de vente et sur leur diffusion radio, sur leur diffusion télé, diffusion des clips. Voilà, c'est tout un tas de critères qu'on n'évoque jamais, parce qu'aujourd'hui, les ventes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les diffusions de radio, les diffusions en podcast, toutes ces choses-là, c'est très important,
oui.
En streaming. Voilà.
Et Philippe Gildas avait eu la même idée, puisque
oui.
Le top 50 est né, parce qu'il en avait assez de voir ce hit parade sans avoir les chiffres de vente, et qu'il a eu l'idée de lancer cette formule à laquelle personne ne croyait au départ.
Oui, et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que les chanteurs de variété emblématiques de l'époque ne vendaient pas de disques, en fait,
oui.
et que c'était d'autres qui étaient concernés.
Alors, votre culture, ce sont aussi les titres des années 90, et vous les avez évoqués à la télévision en un temps où l'engouement n'existait pas. C'est-à-dire que Génération Top 50, c'était n'étaient pas encore les grandes salles d'aujourd'hui, on retrouve les années 80.
Alors, Génération Top 50, là on revient, c'est une émission qui est diffusée chaque week-end le matin sur W9 et qui marche très fort. La nostalgie, ça marche très très fort. Les années 80, les gens ne s'en lassent pas.
Mais vous êtes un pionnier du genre. À l'époque, la nostalgie, on n'en parlait pas beaucoup quand vous avez commencé ces émissions.
C'est vrai. Et de me replonger dans le Top 50, ça nous a permis de revoir des images quand même exceptionnelles parce que les clips étaient quand même assez aléatoires à cette époque. Il y en avait des très bons et des très mauvais. En tout cas, des très très drôles. Donc ça nous permet de nous amuser régulièrement avec ce genre d'images.
Il y avait pire, il y avait les enceintes qui étaient le Scopitone, dans les années 60 par Davis Boyer, avec les premiers Scopitone sur Françoise Hardy et quelques autres, réalisés par Claude Lelouch.
Voilà. Ouais. Ah bah, c'est des petites merveilles, c'est des pépites.
Et que tout le monde voulait jeter et que Davis Boyer, à l'époque, a conservé dans une cave, une chambre froide, pour qu'on les ait encore aujourd'hui.
Mais moi, je me souviens que quand j'étais à RTL 9, j'avais en ligne Davis Boyer pour lui acheter des images pour les diffuser dans mes émissions. C'était les images qui valaient le plus cher, hein, je vais pas vous mentir. Oui. Donc on n'en achetait pas beaucoup, mais on en achetait quand même régulièrement, vraiment pour nous faire plaisir.
Et puis il y a aussi une soirée que vous avez présentée, c'est les 40 ans du Puy du Fou. Ça, c'est un événement, Jérôme Anthony.
Oui, alors ça, c'était un plaisir, mais c'était plutôt un défi parce qu'on demandait à tous les animateurs d'M6, en tout cas du groupe, d'intégrer un spectacle du Puy du Fou et on se rend pas compte à quel point ces spectacles sont physiques. Et en 48 heures, il fallait être prêt et se présenter, enfin participer au spectacle devant quelques milliers de spectateurs. Ça a été très très dur.
Et vous avez été un mousquetaire
ou... Oui, j'ai été un mousquetaire, mais pas vaillant. Hein, pas vaillant.
Et il faut savoir que le Puy du Fou, ce n'est pas hasard. Philippe de Villiers était un jeune sous-préfet de Vendée. Oui. Il apprend que le conseiller général achète le château du Puy du Fou. Il va faire un petit spectacle en hommage à la Vendée, aux guerres de Vendée. On voit ce que ça a donné ensuite.
Oui, c'est une affaire familiale qui est vraiment exceptionnelle, d'une grande générosité, et puis surtout, c'est des spectacles magnifiques. De toute façon, je crois que c'est un des parcs les plus importants du monde. Ah, je crois qu'il est reconnu comme le plus grand parc du monde.
Oui. Alors, vous êtes aussi, Jérôme Anthony, ce que j'appelle l'un des pionniers des after-émissions.
Pionnier, faut pas exagérer.
Si, parce que La Nouvelle Star ou d'autres émissions comme Incroyable Talent, vous avez été un des premiers, tout le monde le fait aujourd'hui, à être en coulisses, à avoir l'avis du jury.
C'est vrai, parce que c'était un principe qui s'appliquait beaucoup dans les autres pays, et il n'y en avait pas en France. Et donc, on m'a, entre guillemets, filer ce genre d'émission parce que effectivement je me débrouille plutôt assez bien en coulisses, j'arrive assez bien à improviser, j'arrive assez bien à attraper les candidats ou les personnalités, à en faire quelque chose. Donc c'est un exercice que je faisais et que je fais avec beaucoup de facilité.
Mais c'est pas frustrant de ne pas être dans l'émission et d'être ensuite ?
Si, on peut voir ça aussi comme ça, on aimerait bien faire les deux. Voilà, pour l'occasion c'est pas présenté mais... Voilà, l'appel est lancé.
Voilà, c'est important. Et puis, tout ça, il y a une émission quand je vois Affaire conclue, je me dis, je pense à vous parce que vous avez fait aussi une émission du même genre, un trésor dans votre maison. Alors, c'est une copie.
Ah, pour le coup, je suis pas producteur, donc je le dis en toute modestie, on a été les pionniers, c'est-à-dire à réussir à faire une émission vraiment populaire sur les brocantes, ça n'existait pas avant. Il se trouve que cette émission a très bien marché, on en a fait 200 et elle cartonnait tous les samedis et j'ai toujours pas compris pourquoi on l'avait arrêtée. Voilà, c'est tout. Voilà. En tout cas, elle a au moins servi à avoir donné l'idée à France 2 de lancer le programme, le format concurrent en Angleterre, qui est celui de Sophie Davant, et qui marche très très fort.
Oui, et je crois aussi que chez vous, il y a un certain bric-à-brac, vous habitez Nancy, et vous avez la collectionnite aiguë, Jérôme Anthony.
Non, c'est pas que j'ai la collectionnite aiguë, c'est que je ne sais pas jeter les affaires. Voilà, j'ai toujours un lien avec quelque chose, un objet, etc. Je ne sais pas jeter les affaires.
Donc, il vaut mieux habiter Nancy que Paris, dans ces cas-là, pour avoir
une maison.
Oui, il
vaut mieux avoir un peu de place.
Et puis, vous avez une formule, votre règle de vie, qui est le PCPC. Pas chiant, pas cher.
Alors, ça c'est... Ça, c'est une formule que j'utilise dans le métier. C'est-à-dire, quand on me dit, mais ça fait longtemps que t'es là, mais alors, il n'y a pas de secret. Hein, de toute façon, s'il y avait un secret, je l'appliquerais et je ferais certainement une plus grande carrière. Mais je dis toujours, moi, j'essaye d'être PCPC, pas chiant, pas cher. Bon, je suis quand même parfois un petit peu chiant et parfois, peut-être qu'on peut considérer que je suis un petit peu cher, mais je pense pas. Mais pas chiant, pas cher, ça marche pas mal. PCPC.
Il y a quelque chose qui est cher à votre cœur, c'est cet album, dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 28 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jérôme Anthony.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jérôme Anthony. On a parlé radio, télévision, mais il y a le chanteur avec ce premier album qui sort le 28 février, Ma plus belle chanson. Et Ma plus belle chanson, on voit qu'il y en a 10. C'est assez étonnant.
Oui, on a toujours sa plus belle chanson, donc je l'ai appelée Ma plus belle chanson, comme quand on dit comme ça communément, ça c'est ma plus belle chanson. Et puis finalement, on entend une autre 3 jours plus tard, on dit non, finalement c'est celle-là, ma plus belle chanson. On a toujours une plus belle chanson à un moment donné dans sa vie.
Alors on va en écouter une pour commencer, c'est Pour le plaisir.
Pour le plaisir, il faut savoir prendre le temps de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir.
chanson qui a eu beaucoup de succès et qui a lancé Herbert Léonard. Et personne ne voulait produire cet album, donc finalement, Vlin Bugy, auteur de la chanson, l'a produit. Ce qui vous est arrivé aussi, d'ailleurs, Jérôme Anthony.
Tout à fait. Et Vlin Bugy, on en a beaucoup parlé de cette chanson et de l'histoire de cette chanson, et elle a beaucoup suivi l'arrangement qu'on a réalisé pour cette chanson. Oui, c'est vrai, j'ai fait quelques rendez-vous en maison de disques, bon, sans trop y croire, et puis je me suis dit à un moment, je pense que si je travaille avec une maison de disques, je ne vais pas pouvoir faire exactement l'album que j'avais envie de faire. Alors, évidemment, avoir envie de faire un album, c'est pas une fin en soi, mais enfin, il y a un moment dans sa vie où il est urgent de réaliser ses rêves d'enfant ou de les abandonner complètement. Donc il y a un moment où je me suis dit, j'ai pas envie de les abandonner, je vais aller jusqu'au bout. Et donc l'idée, c'est de reprendre des grands standards de la chanson française, comme Pour le plaisir, qui est finalement une chanson de crooner, hein. Le texte c'est une chanson de crooner, et de les réorchestrer à l'ancienne, c'est-à-dire comme à l'époque où on faisait de la variété dans les années fin 50, années 60, comme le faisait Charles Trenet, Aznavour, Sacha Distel, ou les Américains, comme le faisait Sinatra ou Dean Martin. Donc, refaire comme on faisait à l'époque, avec des cuivres, avec des violons, et faire swinguer des chansons qui ne swingent pas au départ. C'est-à-dire qu'on passe des chansons techniquement de binaire à ternaire, donc elles passent pas toutes comme ça, mais celles qu'on a fait là passaient, et c'est des chansons que tout le monde connaît de la grande variété française.
Oui, comment vous les avez choisies d'ailleurs, ces 10 chansons?
Parce que je les aimais tout simplement. Que j'avais un lien avec un chanteur, ou par exemple Pour le plaisir, en vrai, je faisais une série d'émissions avec, je connaissais bien Vlin Bugy, mais je faisais une série d'émissions avec Julien Lepers qui a composé cette chanson, et je lui dis, tiens, je suis en train de faire un album, on fait Chez Lorette, on fait Le ciel, le soleil et la mer, Aline, il me dit, pourquoi tu prends pas Pour le plaisir, ça marche bien. Et puis on avait un espèce de petit piano de basse-tringue qui était là, on a commencé à regarder si elle passait en swing, et elle passait en swing, et c'était une bonne idée, et c'est une des plus belles chansons de l'album.
Voilà, et justement Pour le plaisir, c'est ce que vous avez fait, parce que il y a des années que vous pensiez à cet album. Ça a été une longue gestation, Jérôme Anthony.
Bon, écoutez, aujourd'hui, il y a tellement de musiques différentes qui existent. J'allais pas me plonger dans de la pop ou encore moins du rock et encore moins des chansons très actuelles. Ce serait ridicule. J'ai voulu complètement me démarquer. J'ai cette culture de chansons élégantes et énergiques qu'apporte le swing. Et puis, j'ai cette culture de chansons françaises que je connais assez bien. Pas aussi bien que vous, mais que je connais assez bien. Et j'avais envie, voilà, de combiner les deux et d'offrir un écrin commun à toutes ces chansons qui vont des années 60 jusqu'aux années 80.
Et une chanson de 66 qui figure dans cet album revu et corrigé par Jérôme Anthony, c'est Chez Lorette.
C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous.
Là aussi, c'est une version très particulière d'une chanson qui est née, je ne sais pas si vous savez, dans un train entre Paris et Saint-Cloud.
Ah non, alors ça, je ne connais pas.
Alors, il se trouve qu'il cherchait une chanson, Michel Delpech, évoquant son plus beau souvenir de jeunesse. Et il se souvient d'un café voisin du lycée de Pontoise, où il y avait une jeune femme qui lui donnait à manger, qui le consolait pendant ses amours, qu'il voyait, et il l'a appelée Lorette, et c'est comme ça que cette chanson est née, un peu par hasard, dans ce train. Et vous, pourquoi c'est une chanson qui a marqué votre vie?
Alors moi, il y a quelques années, j'ai fait un conte pour les enfants qui s'appelait Dolly Bible, avec une dizaine d'artistes, et une bible musicale pour les enfants, où les artistes jouaient la comédie et chantaient. Parmi les interprètes, parmi les 10 interprètes, il y avait Michel Delpech. C'était un peu avant qu'il soit malade. Et donc j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec lui quand on était en promotion pour cet album. Et moi, j'ai toujours adoré cet artiste, évidemment. Et quand on a fait l'album, je ne savais pas comment aborder les chansons vocalement. Je savais pas comment faire. Donc j'étais avec mon ami Claude Morgan. Claude Morgan, c'est un compositeur qui a écrit pour plein de gens, et notamment pour Michel Delpech. C'est lui qui m'a coaché sur toutes les chansons. Et il m'a dit, on va suivre la méthode Michel Delpech. On va mettre de l'air dans ta voix, on va y mettre du grain. On a appliqué cette méthode Michel Delpech. C'est un artiste qui m'a énormément touché et que tout le monde adore. Et voilà, j'ai un très très bon souvenir de Delpech.
D'ailleurs, je suis
sur un clip.
Oui, la chanson La fin du chemin.
Voilà, bah c'est cette chanson que j'avais produite et je me suis permis de faire les premières secondes du clip.
Et la chanson, vous l'avez appris? Vous jouez du piano, je crois, chez vous régulièrement.
Comme je vous le disais, ma mère avait fait le conservatoire de Mireille. La chanson, ça fait partie de notre vie. Mes grands-parents chantaient toujours. J'entendais du swing à la maison. J'entendais des disques de Glenn Miller tournés en boucle, de George Gershwin. J'ai été bercé par tous les films d'Hollywood, toutes les comédies musicales de Jane Kelly, Fred Astaire avec ma grand-mère. On les regarde encore en boucle aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours baigné dans ce swing élégant et énergique.
Alors, parmi les chansons de cet album, il y a aussi un grand succès de l'été 65.
Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer.
François de Gelt, grand succès de 65. Je crois que vous ferez très plaisir à Salomé de Gelt.
Ah oui, non, mais elle reposte mes posts sur les réseaux sociaux. Oui. Je crois que ça lui fait très plaisir de réentendre cette chanson sous cette forme parce qu'on n'a pas dénaturé le travail de son papa et surtout.
Son mari. Salomé de Gelt, c'est la femme de.
Ah, c'est la femme.
Mais c'est la femme de.
Alors là, je croyais que c'était sa fille. Alors là, je suis vraiment à côté de la plaque complètement et je l'embrasse au passage, je suis désolé.
Elle nous écoute. Hein.
Ah oui, d'accord, pardon. Et donc, et je suis ravi, on n'a pas essayé de copier son époux, donc. Oui. Oh là là. Et on en a fait une toute autre version.
Voilà.
Assez joyeuse.
Cette chanson, elle a une histoire. Il a vendu 5000 disques par jour à l'époque, vous rendez
franchement,
compte.
J'aurais pu faire la bourde à l'envers, ça aurait été plus grave.
Oui, oui, non, vous inquiétez. Non, mais en plus, ça prouve la jeunesse de l'un et de l'autre. Et un jour, François de Gelt entend à la radio les trois mots ciel, soleil et mer, mm-hmm. Il décide de les associer. Et c'est comme ça que la chanson est née. Il a une mélodie tellement simple qu'il veut pas la garder. Et finalement, il enregistre avec Daniel Licari dans les chœurs cette chanson et c'est 5000 disques par jour.
Ah ouais, non, mais c'est un tube énorme, énorme.
Et il a un concurrent à l'époque, c'est Christophe avec Aline.
J'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Pourquoi cette chanson, Jérôme Anthony ?
Non mais c'est génial ce que vous faites, parce que vous mettez des petits bouts les uns derrière les autres. Et c'est formidable parce qu'en fait, je vais vous dire, quand on s'est dit quelle chanson on va choisir pour promouvoir l'album, on savait pas laquelle. Parce que comme je vous le disais, à chaque fois que je fais entendre à quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui aime une autre chanson. Ouais. Donc moi, je les aime à peu près toutes. Et de les écouter les unes derrière les autres, voilà, ça, on se dit qu'on rentre dans un univers avec cet album qu'on avait complètement abandonné. Et les chansons, et ce genre de musique. Donc c'est très sympa ce que vous faites. Et Aline, parce que j'adore cette chanson, c'est une des pépites des années 60, on peut pas passer à côté.
Vous avez rencontré Christophe ?
Non, malheureusement.
J'aimerais il vit bien. La nuit, lui.
Ah oui, je sais, mais moi le jour, moi.
Ah, donc...
Mais je sais, je l'ai déjà croisé, mais j'ai pas osé aller l'embêter.
Il y a quelqu'un qui a beaucoup vécu aussi, et que vous évoquez dans une chanson, sa philosophie, c'est Georges Moustaki.
Ah oui, alors là, c'est un autre début.
Nous avons toute la vie, ouais, nous amuser, nous avons. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant. Saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie.
Oui, bon, alors je suis convaincu que Georges Moustaki aurait adoré cette version, car ça correspondait à son sens du bœuf permanent.
Écoutez, moi, j'ai été nourri, pardon de le citer, hein, je veux pas faire de la pub, mais au Club Méditerranée. Et j'ai pas pu m'empêcher, parce que moi j'adore faire des soirées où tout le monde chante, j'ai pas pu m'empêcher dans cet album, malgré le swing et l'élégance des autres chansons, d'y mettre quand même une petite chanson où on va s'amuser un moment. Et c'est vrai que quand on est en concert, cette chanson, on la joue à la fin, et on la joue 2-3 fois de suite, et tout le monde danse, tout le monde se lève. Et ça, je vous avoue, c'est mon grand plaisir de pouvoir partager comme ça.
Vous faites des concerts ?
Oui, 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 on en fait déjà depuis pas mal de temps. Et c'est d'ailleurs en faisant des concerts qu'on s'est dit, tiens, faisons un album, faisons ça proprement. Et maintenant, on va vraiment faire ça sérieusement. On a commencé à tester l'album tel qu'il est là avec mon groupe. Et ça se passe vraiment très, très bien. On a un très, très bel accueil.
Et la philosophie de Georges Moustaki, l'un jour résumé, il a dit qu'il était un coureur de fond plutôt qu'un sprinter. Il voulait perdre beaucoup de temps à faire des tas de choses. Il avait la réputation d'être un lent, alors que ses chansons sont le poids des choses où il vit. Il dit, je suis bien trop paresseux pour travailler sur commande. Et c'est vrai qu'il a eu une vie exceptionnelle, Moustaki.
Ça fait partie des gens que je regrette de jamais avoir rencontré dans ma vie.
Mais jamais rencontré ?
Non, bah non.
C'était un monsieur qui était... On l'attendait à Paris, il était à Rio de Janeiro. Mm. Il avait, rue Saint-Louis-en-Lille, un appartement avec des guitares, des tas de choses. Et la porte était ouverte et on allait faire la fête et chanter avec lui.
Ben voilà, mais moi je me souviens de cette chanson qui à la base est lente hein, quand même. Oui. Elle est assez lente. Hein. Je crois que c'est une rumba, je crois, mais assez lente. Mais je me souviens que quand j'étais avec mes parents en vacances, cette chanson était festive. C'est-à-dire que les gens, même si elle était lente, tout le monde tapait dans les mains et chantait sur cette chanson.
Et ça correspondait au caractère de Georges Moustaki qui se faisait appeler Monsieur Zéro Volt.
Ah ben voilà, à Zéro Volt, ah, je savais pas, d'accord. Très bien.
En comparaison avec Beko qui était Monsieur 100 000 volts.
Voilà, exactement.
Et puis il y a une autre chanson qui a été aussi un immense succès, c'est Un été de porcelaine, pas par Bert Schumann mais par Jérôme Anthony.
Des étés de porcelaine, j'en ai connu après toi.
Un une belle chanson, ça aussi, Jérôme.
Moi, c'est mon grand regret, c'est qu'on ne parle presque plus jamais de Mort Schumann. C'est insupportable. Étonnant. J'adore cette chanson. C'était la musique du film L'Hôtel de la Plage. Oui. Encore avec le fameux Lionel Mellet dont on parlait, qui avait joué dans Trocadéro Bleu Citron.
Il y avait Anne Parillo qui débutait.
C'était extraordinaire. C'était partie de mes films de chevet, hein, parce que c'était les années magnétoscope, donc on pouvait les regarder en boucle.
Film de Michel Lang.
Un film de Michel Lang, bravo. Et il y avait Daniel Sekaldi, il y avait Guy Marchand et tous ces artistes qu'on adore. Et cette chanson qui est vraiment au départ un slow, qui est magnifique. Bon, ben voilà, on l'a un petit peu accéléré, on en a fait un petit peu autre chose, mais c'est une chanson, une mélodie qui me tient à cœur.
Il faut savoir que Mort Schumann, en fait, la vie l'intéressait plus que son métier. Il avait fait fortune grâce à des chansons. Il a écrit des chansons pour Presley,
oui,
sans jamais le
vrai,
voir, sans jamais le rencontrer. Mm-hmm. Il est venu en France pour l'amour des vins. Il avait la plus belle cave de Paris pour l'amour des grands restaurants. Et c'est ce qui l'intéressait, sa famille. Et il est mort très très jeune de tout ça. Et sa carrière, il s'en moquait, mais complètement.
Ouais, bah, il a fait des chansons magnifiques. Encore bien plus belles que celle-là, d'ailleurs.
Il y a une chose qu'on remarque dans cet album, c'est qu'il n'y a que des mélodies. Et ça,
oui,
c'est rare aujourd'hui.
C'est presque abandonné aujourd'hui. On privilégie l'ambiance des chansons, l'atmosphère des chansons. Voilà, moi je pense qu'on peut avoir un petit peu des deux. Voilà.
Bon. Et le piano, vous l'avez appris familialement aussi avec.
Alors moi je vais vous dire, je sais juste m'accompagner au piano parce que je suis pas un bon élève du tout. Mais je me suis obligé à apprendre le piano pour pouvoir intégrer un groupe. Donc j'ai appris par cœur les chansons de Balavoine, des Beatles et quelques autres pour pouvoir intégrer un groupe et pouvoir les accompagner et faire partie de ce groupe, c'est tout. Mais aujourd'hui, ça me sert beaucoup pour préparer les titres parce que je les prépare tous à l'avance au piano. Et après, évidemment, ils sont rejoué par des bons et des vrais musiciens.
Alors cet album, c'est le point de départ d'autre chose, Jérôme Anthony ?
Ben j'espère que c'est le point de départ de... Oui, ben, moi ce que j'ai envie, c'est de faire des concerts, d'aller à la rencontre des gens, et puis je suis pas éloigné de l'univers dans lequel je suis en télé, parce que voilà, j'arrive pas avec une guitare en bandoulière, je suis dans l'esprit des grandes émissions de variété, des années 70, des Carpentiers, dont on parle beaucoup, ça revient beaucoup ça revient au goût du jour. Et puis, je sais pas si vous avez repéré dans cet album, pardon, je fais une parenthèse, j'ai une chanson inédite de Gilbert Bécaud.
Oui.
Oui.
Complètement.
Alors,
comment elle est venue ?
Alors, en fait, quand je participe à l'émission de Sacré Soirée, mon parrain, parce qu'il était là et qu'il m'avait trouvé plutôt sympa, c'était Gilbert Bécaud. Et donc, il me convoque quelques jours plus tard à la SACEM avec Delanoë et me dit « Voilà, on t'a fait une chanson. » Je suis reparti avec la cassette et j'en ai jamais rien fait. Et donc, j'en ai profité pour la mettre dans cet album.
Elle est dans cet album que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Merci Jérôme Anthony et tous nos vœux de succès, vous le méritez largement.
Vous êtes adorables, merci à vous. Je suis très fier d'avoir fait cette émission à vos côtés.
Oh, merci, rougir. Merci à vous. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.